Voilà, c'est la première prédication dans la chapelle cette année, 2006. Nous sommes contents d'être encore là, mais nous espérons bientôt partir avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est vrai. Nous avons cette espérance. Alors, on ne va pas partir sur la planète Sirius, hein? Pas du tout, c'est pas du tout de cela dont il est question. Mais nous savons, selon la promesse qui a été faite par Jésus, que comme il est parti, il reviendra. Alors, nous savons aussi qu'il reviendra dans un premier temps pour chercher les siens, ceux qui auront été fidèles. Et c'est pourquoi nous nous efforçons de vivre fidèlement la parole de Dieu, au plus près de ce que nous comprenons et avec le secours de son esprit. Ce soir, je vous demande de vous lever, nous allons lire les Écritures. Dans Hébreux chapitre 13, verset 8, j'ai choisi ce verset exprès parce que c'est le verset favori, préféré de mon papa spirituel, T.L. Osborne. Et pour commencer l'année, j'ai pensé que c'était bien de prendre ce verset dont il s'est servi des milliers de fois par le monde devant des foules immenses, prêchant l'évangile de Jésus-Christ, que Jésus est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Alors lisons. Jésus-Christ est le même, hier, et aujourd'hui, et éternellement. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, je vais aborder ce texte, et je voudrais que vous écoutiez bien cela, et que vous y pensiez. Rien en dehors de toi ne peut te rendre apeuré. Parce que rien n'est en dehors de toi. Ah. Dieu vit en toi. Tu vis en Dieu. Et rien n'est en dehors de Dieu. Alors, rien n'est en dehors de toi. Tout cela fait partie de quelque chose, de la volonté de Dieu. Ce que tu vis au quotidien, c'est une chose très sainte. Pense-y simplement, crois-le simplement. Chaque jour, chaque instant que tu passes, c'est du temps. Et le temps, c'est le moyen que Dieu a créé pour te donner à toi qui es créé de retrouver l'éternité de ton esprit. Ton esprit est éternel, ton esprit en toi est éternel. Ta chair, ton corps, tout ça, cette âme, ça n'est pas éternel. Mais le temps t'a été donné pour justement avoir conscience de ce que peut être l'éternité. Pour que tu deviennes conscient de l'éternité. Alors de quoi est-ce que tu pourrais avoir peur? Rien de ce qui t'arrive ne peut te nuire. Ça, c'est une promesse aussi que Jésus a faite. Tout te conduit à la stature parfaite de Jésus-Christ, avec, pas tout seul, avec les siens. Le temps est à ta disposition, le temps a été créé pour ta sécurité, il suffit que tu le croies. Ne crois pas que le temps joue contre toi. Beaucoup de gens pensent ça dans le monde, que le temps joue contre eux. Tu as du temps, autant que chaque personne. Mais comment est-ce que tu appréhendes le temps? Comment est-ce que tu vois le temps? Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois laid, que tu sois beau, évidemment, que tu sois savant, que tu sois ignorant, vous allez me dire, il vaut mieux être riche, jeune, beau et savant, hein? Mais que tu sois pauvre, vieux ou laid et ignorant, peu importe, de toute façon, tu as autant de temps que les autres, puisque tu as 24 heures par jour. Et ce qu'il faut, c'est gérer le temps au moment présent. Dieu est rempli de certitudes à ton sujet. C'est ça la signification de cette phrase qu'on a lue. Dieu ne change pas, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est rempli de certitudes. Il ne change pas. Il ne change pas à ton sujet. Il ne changera pas à ton sujet. Parce qu'il n'est pas incertain de lui-même. Il est en toi, et il est avec toi dès le début, dès le commencement, c'est-à-dire hier, il t'a prédestiné, il t'a choisi, Éphésiens chapitre 1, il t'avait prédestiné au salut hier, avant, dans le passé, il s'est révélé à toi aujourd'hui c'est maintenant, c'est ton moment, là, maintenant, le moment où tu vis, là, le moment où tu entends ce que je dis, maintenant tu sais, il est avec toi. Il s'est révélé à ton cœur, tu sais qu'il est avec toi, il a dit « je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Mais sache-le, avant qu'il ne se révèle à toi, il était déjà avec toi. Hier, avant. Il n'a jamais été contre toi, jamais. Et il ne changera pas. Il ne change pas, il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il te demande simplement de lui faire confiance aujourd'hui, dans le moment présent. Arrête de penser à demain, pense à maintenant. Il est le même hier, aujourd'hui, là, maintenant, éternellement. Et pourquoi est-ce qu'il te demande de lui faire confiance? Il te demande de lui faire confiance parce que lui, il te fait confiance. Il t'a créé pour lui-même, nous dit la Bible. C'est-à-dire qu'il t'a créé de façon satisfaisante pour lui-même. Il ne t'a pas créé en disant, tiens, je vais me créer un machin qui va m'embêter tout le temps. Non. Il t'a créé de façon à être satisfait, à être content. Il dit, pour ton information, pour l'information de ton être, de ta chair, de ton âme, que rien ne peut te nuire, parce que rien n'est plus fort que Dieu qui vit en toi. Il te demande de le croire. Rien de nuisible ne peut t'atteindre, rien. Car rien n'est plus grand que son amour pour toi. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il suffit que tu le crois. Tout est possible à celui qui croit. Quoi donc? Tout. Rien ne peut te faire du mal. Parce que étant en Dieu, tu englobes tout. Et tu maîtrises tout par ta foi active. Si ta foi est active, alors tu englobes tout, tu maîtrises tout. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'est toi qui es le maître de ta paix. Crois ça, et tu vas te rendre compte de tout ce qui dépend de toi, c'est-à-dire de Dieu qui est en toi. Écoute bien, quand quelque chose semble menacer ta paix, quand quelque chose semble menacer la paix de ton esprit, demande-toi, Dieu a-t-il changé à mon sujet? Et réponds de sa part, non, je ne change pas. Je suis toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. David, il se parlait de la part de Dieu. Savez-vous ça? David se parlait de la part de Dieu. Psaume 27, 18. Il est bon de connaître les Écritures pour savoir comment faisaient les hommes de foi. David, il disait, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. » Réponds de sa part. Pose-toi la question, est-ce que Dieu a changé vis-à-vis de moi? Est-ce que Dieu a changé à mon sujet? Voilà ce qui m'arrive là, est-ce que ça voudrait dire que Dieu m'abandonne? Et réponds de sa part, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde, Matthieu 28. Accepte cette parole et redresse-toi. Crois cette parole et redresse-toi. C'est une parole inchangeable, elle a été dite, elle est pour toi, crois-le. C'est ça, avoir la foi. Refuse de changer au sujet de cette parole. Les idées religieuses peuvent te rabaisser, ta conscience peut t'accuser, des gens peuvent te bannir. Ce bannissement ne vient pas de Dieu. Ça peut être religieux, mais ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce que ce bannissement n'existe pas dans l'idée de Dieu. Il n'y a que toi qui as le pouvoir de te bannir par une fausse croyance. J'explique. Une fausse croyance te conduira à une fausse action. Et une fausse action va te conduire à une fausse croyance qui va elle-même te conduire à une fausse action, etc. etc. Et c'est ça le mal. C'est un cercle vicieux. Si tu crois mal, tu vas commencer à agir mal et tu vas avoir ensuite des fausses croyances qui vont confirmer ce que tu pensais avant de faux, etc., etc., etc. C'est ainsi que certains perdent la foi, perdent l'assurance, perdent la paix avec Dieu, perdent la paix avec les enfants de Dieu parce qu'ils attristent eux-mêmes le Saint-Esprit. C'est eux-mêmes qui attristent le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Si vous attristez le Saint-Esprit, on va être obligé de vous reprendre, de vous corriger. Et si vous ne voulez pas être repris et corrigé, on va être obligé de se mettre à l'écart de vous afin de ne pas être contaminé. Mais c'est vous qui vous excluez. Alors, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ça ne vient pas de Dieu. C'est une séduction qui est mensongère, c'est une séduction qui est désespérante, et ça vient de l'ennemi. Pourquoi est-ce que je dis que c'est mensonger? C'est mensonger parce que ça n'a absolument rien de réel. Le diable est le père du mensonge. Ne le crois pas. Même si tu l'as suivi pendant un temps dans la séduction, ne crois pas que Dieu t'a rejeté, puisqu'il dit « Je ne te rejette pas ». Ésaïe, je crois, 10 ou 40, je ne sais plus. Écoute bien ça. Tu es chez toi en Dieu. Quand tu rêves, par exemple, tu crois que c'est la réalité. Le rêve que tu es en train de faire, tu crois que c'est la réalité, n'est-ce pas? Eh bien, ce qui semble pouvoir te nuire n'est pas plus réel qu'un rêve. Réveille-toi. C'est ça que ça veut dire, le réveil de l'épouse. Réveille-toi. Réveille-toi. Reviens à la réalité. C'est ça, se réveiller. Revenir à la réalité, à la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Quand tu te réveilles, tu as conscience que ce que tu rêvais, ce n'était pas la réalité. Mais seulement quand tu te réveilles. Quand tu reviens à Jésus, tu prends conscience que la séduction du diable n'est pas une réalité, n'a aucune réalité. Sinon celle que tu lui as donnée pendant le temps où tu t'es laissé séduire. N'y crois plus. Rejette-la. Tourne le dos au diable. Ça lui enlève sa puissance. Maintenant, le diable. Le diable. Ce qu'il veut, c'est pas tellement que tu pêches. Mais il s'en fiche que tu pêches. Ça lui est complètement égal que tu pêches. Ce qu'il veut, en réalité, ce qu'il veut, c'est te désespérer. C'est que tu ne crois plus à l'amour de Dieu pour toi. Alors il va se servir du péché pour te dire, voilà, maintenant tu n'es plus digne, etc., etc. Mais comment peux-tu penser que tu es encore digne? C'est pas possible. Mais quand tu t'approches du Saint-Esprit, c'est-à-dire quand tu t'approches de ce qui est écrit, parce que ce qui est écrit dans la Bible, c'est le Saint-Esprit qui l'a dicté. Si tu t'approches, quand tu t'approches du Saint-Esprit, c'est seulement là que tu te souviens qu'aimer, c'est possible. Que Dieu est amour. Et que quand on aime, on pardonne toujours. Et Dieu aime. Et Dieu t'aime. Son amour n'a jamais cessé, même quand toi tu t'étais détourné. Il est comme lui, son amour est comme lui, il est éternel. Il ne peut pas s'arrêter, il n'y a pas de parenthèse. Alors souviens-toi de son amour. Et tu t'en souviendras quand tu désireras t'en souvenir. Parce que désirer entièrement aimer, désirer vraiment être aimé, c'est ça créer dans le temps présent. Tout ce qui n'est pas fait par amour, ça ne crée rien. C'est du néant, c'est du faux, c'est de l'irréel, c'est pas du vrai. Dieu a créé le temps pour que tu retournes dans ta réalité, que tu retrouves les choses éternelles. Alors offre au Saint-Esprit qui est en toi le désir de te souvenir de l'amour de Dieu. Je répète, offre au Saint-Esprit qui est en toi le désir de te souvenir de l'amour de Dieu. Prends du temps pour cela. Le Saint-Esprit en toi retient la connaissance de Dieu en attendant que tu y crois vraiment. Il pourrait tout t'imposer, mais il ne le fait pas. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Offre au Saint-Esprit ton désir de te souvenir de l'amour que Dieu et toi vous aviez autrefois, avant que tu sois créé, avant que tu viennes sur cette terre, avant que le temps ne soit créé, souviens-toi de l'amour que Dieu et toi aviez l'un pour l'autre. Et puis alors abandonne avec joie tout ce qui fait obstacle à ce souvenir. Ce que la Bible appelle péché, ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu penses et dont tu n'es pas fier, eh bien laisse ce fardeau, il y a un endroit pour ça. Nous, les chrétiens, nous sommes les seuls êtres dans l'univers entier à savoir où est cet endroit. c'est la croix, l'endroit où nous pouvons laisser toutes ces choses-là, ce que la Bible appelle le péché. La voix de Dieu te dit que tu fais partie de lui. Il te dit aussi, celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur. Il sait très bien où tu en es, ce que tu vaux. Ce qu'il veut, c'est que tu ne perdes pas espoir, que tu ne laisses pas la foi, que tu ne te laisses pas décourager par l'ennemi. T'as péché ? Dieu t'a donné un endroit pour aller déposer ça, la croix. Crois-le et fais-le. Et puis ensuite, reviens te faire cajoler, reviens vers ton Seigneur. La voix de Dieu te dit que tu fais partie de lui. Connais donc cette réalité, la réalité, ta réalité, la seule réalité. Tu fais partie de lui. En dehors de toi, il n'y a rien. C'est-à-dire que ton frère, ta sœur, ça fait partie de toi. Tout ce qui existe, ça fait partie de toi. Alors, ne laisse rien dans ce monde retarder ton souvenir de lui. Au contraire, sers-toi de ce qui arrive et même des fautes que tu peux faire pour te souvenir de lui, de son amour, de son pardon, de sa miséricorde, de sa grâce, de sa gentillesse. Parce que cette connaissance de lui, c'est la connaissance de qui tu es. Te souvenir de Dieu, te souvenir de son amour pour toi, te souvenir de la communion que ton esprit avait avec le sien, c'est ramener ton esprit à ce qu'il connaît déjà. Tu as ton être, ton âme, ta chair, ton ego a besoin d'apprendre ces choses, mais ton esprit le sait déjà. Fais taire ton âme, fais taire ton esprit. Ou alors impose à ton âme de parler comme Dieu. Mais ne la laisse pas dire n'importe quoi. Et s'est penché dans des sentiments. Ah oui, mais je ne vaux rien, t'as vu quand même. Si tu fais ça, ça s'appelle l'échange de la connaissance contre ta perception. C'est-à-dire, si tu cherches, tu trouves. Si tu cherches, tu trouves. Et tu ne trouveras, mon frère, ma sœur, que ce que tu cherches. Alors cherche Dieu. Cherche pas les ennuis. Cherche pas ce qui descend. Cherche pas ce qui accuse. Ne te complais pas là-dedans. Lève la tête. Réveille-toi. Prends conscience de l'amour pour Dieu. Prends conscience de ce qui est amour, de ce qui est aimable, de ce qui est élevé en dignité, de ce qui est louable. Prends conscience de ça. Regarde à ça. C'est ça, ça veut dire. Lève les yeux vers Jésus. Ça veut dire quoi ? Lève les yeux vers Jésus. En haut, un peu à gauche, un peu à droite. Non, ça veut dire ce que je suis en train de vous dire là. Pense à ce qui est louable. Pense à ce qui est honorable. Occupe tes pensées avec ça. Détourne tes pensées de tout ce qui est mesquin, de tout ce qui est accusateur, de tout ce qui est, nuisible. Pour ta santé mentale. Cherche Dieu. Rien n'est au-delà de sa volonté pour toi. Il te donnera sur simple demande et sans te faire de reproches. Parce que si tu en es là, c'est que tu manques de sagesse. Si tu manques de sagesse, c'est que tu ne connais pas ce que c'est la vraie crainte de Dieu. La vraie crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et nous avons étudié cette semaine, pour ceux qui venaient à la réunion de prière, que la crainte de Dieu, elle produit la joie. La crainte produit la joie. Parce que la crainte de Dieu, ça, c'est comme la justice de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la justice des hommes. La crainte de Dieu, ça n'a rien à voir avec la crainte qu'inspirent les hommes ou le diable. Rien du tout. C'est tout autre chose. Mais tu ne peux pas le comprendre à moins que tu ne te réveilles. Parce que tu prends la réalité, tu prends les mensonges pour des réalités. Arrête avec ça. Tu dis, mais pourtant, c'est là, c'est bien réel. Non, c'est un rêve, en fait, c'est un cauchemar que tu vis. Réveille-toi et viens à la réalité. La réalité, c'est la sagesse que Dieu enseigne, que tu trouves dans la Bible. Médite-la le jour, pense-y le jour, rêve-en la nuit, fais-en tout ton bien. Il te donnera sur simple demande. Cesse donc de faire le mal. Qu'est-ce que ça veut dire faire le mal? On va voir ça. N'accepte rien d'autre dans ta vie que sa vie. Écoute bien. Tu fais partie de Dieu. Ne pas le croire revient à te faire du mal à toi-même. C'est ça le mal. Sois ce que tu es vraiment, un fils de Dieu, une fille de Dieu. Si tu ne le crois pas, tu t'attaques toi-même à ton identité. C'est ça le mal. C'est ça le mal. Cesse de t'attaquer toi-même. Cesse de te faire du mal à toi-même. C'est ça se sanctifier, c'est se faire du bien. Se sanctifier, c'est se mettre avec Dieu. Se mettre avec Dieu, c'est cesser de croire que Dieu est contre toi. Par exemple, je donne juste un exemple, ou deux si vous voulez. Croire, par exemple, qu'un fils de Dieu peut être malade ou pauvre, eh bien c'est croire que Dieu peut souffrir. Ah non, ton corps peut souffrir. Ton être, ton intelligence, tes sentiments, tout ça, ça peut souffrir. Un moment. Parce que ton corps n'a pas encore été racheté, selon Romains chapitre 8. Mais, selon Psaume 34, 20, le mal atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, choisis ce que tu veux croire. Si tu veux croire que, oui, bon, mon corps n'a pas été racheté, ma chair est là, misérable, à se traîner comme un ver de terre dans la boue, et dans la désespérance, et dans la souffrance. J'entendais un frère qui parlait tout le temps avec des mots comme ça, souffrance, désespérance, et toutes ces choses. Je dis, mais ça, c'est ton vocabulaire, moi, c'est pas le mien. J'ai pas ces mots, je veux pas ces mots dans ma vie. Parce que j'ai choisi de croire, oui, c'est vrai, ça m'arrive, mais l'Éternel m'en délivre. Toujours. Voilà ce que j'ai décidé de croire. C'est ça ma croyance. D'accord, un moment. Mais Dieu en moi n'aime pas la souffrance. Pourquoi ? Il a déjà souffert une fois pour tout. Et il a dit tout est accompli. Pourquoi est-ce que je vais souffrir encore ? Un peu, oui, mais pas tout le temps. Dieu en moi n'aime pas la souffrance. Un peu mon corps, voilà, un peu, mais pas tout le temps. Un peu la pauvreté, mais pas tout le temps. Vous aimez mieux quoi, vous, la pauvreté ou la richesse ? Ça vient de où cette pensée d'aimer mieux la richesse que la pauvreté ? Certains chrétiens pensent que la richesse, aimer la richesse, ça vient du diable. Vous voyez combien ils sont tordus ? L'or et l'argent sont à moi, dit l'Éternel, et je le donne à qui je veux. Et pensez-vous qu'il va pas vouloir le donner à ses enfants ? Mais ce serait un Dieu cruel. Non, ils ont une idée fausse, ils vivent un cauchemar, c'est affreux. Alors comment s'y prend-il ? Comment Dieu s'y prend-il ? Par la puissance qui agit en toi, par la puissance de ton esprit. Ton esprit est une réalité, ton esprit est éternel, il est en communion avec le Saint-Esprit. Ephésiens chapitre 3, 20. Et Dieu peut faire, par cette puissance qui agit en toi, par cet esprit, par ton esprit qui est éternel et qui est une part de Dieu en toi, il peut faire au-delà de ce que tu peux penser, imaginer, avec ton âme limitée. Mais si ton esprit n'est pas aux commandes, si c'est ta chair, si c'est ton ego qui est aux commandes et qui discute et qui argumente, eh bien alors, ta puissance, c'est-à-dire ton esprit qui est en toi, ton esprit ne peut plus rien faire du tout. Parce que ta chair, elle a des désirs contraires à ceux de ton esprit. Ton esprit est ardent, mais ta chair est... Et voilà. Alors, tu choisis qui comme maître ? Choisis ce qui est ardent. L'esprit, cet esprit... Ton esprit, en communion avec le Saint-Esprit. L'autre jour, je vous ai dit, ton ego ne t'aime pas, ta chair ne t'aime pas. Je n'ai pas été plus loin. Et vous m'avez cru sur parole, vous êtes très gentil. Merci. Mais maintenant, je voudrais vous donner une explication quand même. Ta chair ne t'aime pas. Elle veut ta destruction. Voilà ce qu'elle veut, ta chair. On a un conscient, on a un subconscient, on a un inconscient. Ta chair, elle veut ta destruction. Pourquoi ? Pour une raison qu'elle croit excellente. Mais rappelez-vous, elle est insane, elle est stupide. Ta chair, elle a une bonne raison de vouloir ta destruction, parce qu'elle croit que c'est au prix de ta souffrance, de ton sacrifice, que tu vas pouvoir te racheter aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi elle se complaît dans ce qui n'est pas bien, dans ce qui est contraire à Dieu. Elle a des désirs contraires à ceux de Dieu. Vous me saisissez mieux maintenant ? Elle est mauvaise. Ton ego, il est mauvais. Dompte-le, apprends-lui à vivre. Parce qu'il est destiné à vivre pour l'éternité. Et il faut lui apprendre ces choses.
Moi, le matin, je me lève, après la réunion de prière, il faut que je fasse mon petit déjeuner, après, il faut que je fonce au travail, après, il faut que je rentre, puis j'ai les enfants, puis j'ai la lessive, puis j'ai le repassage, puis j'ai le ménage, puis j'ai ci, justement, je n'ai pas le temps d'attendre. Ben, tu es en train de rater Marie, ou je ne sais plus laquelle des deux, c'était Marie ou Marthe, c'était laquelle qui s'occupait. Pourtant, elle servait le Seigneur, elle lui faisait un bon petit repas, là, des pâtés aux pommes de terre, c'était formidable. Mais bon, mais c'est bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas m'en faire, hein, Rachel, il faut m'en faire encore avant que je parte là-bas en Afrique, un bon pâté aux pommes de terre. Mais avec un bon vin, là. Mais bon, le principal, ce n'est pas ça. Occupez-vous du principal. Apprenez ces choses à votre être. Ne crois pas que dans ton intelligence humaine. Ne crois pas ce que ton intelligence dit, crie, hurle. Ne crois pas. Ne crois pas ça. Crois le Seigneur Jésus-Christ. Quand il dit, par exemple, « Je suis l'Éternel qui te guérit. Je me suis fait pauvre afin de te rendre riche. Je viens à ton secours. Rien ne peut te nuire. » Crois ça. Choisis ces choses. C'est ta part. Je vais terminer en disant quelque chose de fort. Il nous est dit que c'est interdit d'être idolâtre. Eh bien, ne pas adorer une idole, c'est ne pas adorer un Dieu fait à ton image. Je parle par des doubles négatifs, c'est un peu compliqué. Être idolâtre, c'est adorer un Dieu fait à ton image, fait selon ton imagination. C'est-à-dire un Dieu petit, malade, faible, pauvre, méchant, injuste, mesquin, vicieux, vieux et hideux, et ridé. Et c'est pourquoi c'est en esprit que tu dois adorer Dieu, et non pas dans la chair, parce que ta chair, elle est tout ça. Petite, malade, faible, pauvre, méchante, égoïste, injuste, mesquin, vicieux. Ne te fais pas un Dieu à cette image-là. La plupart adorent comme ça, avec la chair, avec des émotions, avec des sentiments. Et ça crie, et ça hurle, et ça pleurniche, et ça glousse, et ça ulule. Parce qu'ils oublient de dépasser leur petite doctrine de la louange. C'est pas ça, louer Dieu. Il reste une espèce de logique. Parce que leur chair, elle aime une espèce de louange charnelle. Par exemple, « Ah, ce frère, il est bien. Oh, frère, vous êtes vraiment gentil, mais vous m'avez fait un bien. C'est formidable, vraiment. Qu'est-ce que vous êtes bien. Oh, puis vous êtes si généreux. » Voilà, il pense que si on fait ça à Dieu, il va être content. Qu'on va le flatter comme ça. Ce n'est pas ça, la louange. Ça, c'est la chair. C'est la louange de la chair. La chair qui s'adresse à la chair. Mais ce n'est pas ça, louer Dieu en esprit, en vérité. Ce n'est pas aller vers lui et lui dire, « Oh, combien tu... » Mais il le sait qu'il est grand. Il le sait qu'il est bon, il le sait qu'il est généreux, il le sait qu'il est miséricordieux, il n'a pas besoin de l'entendre, il n'est pas charnel à ce point-là. Ils ont une espèce de logique, ils sont attachés, n'est-ce pas, à une espèce de logique comme ça. Aujourd'hui, les Juifs ont leur idole, le mur des lamentations, et les chrétiens ont la leur Bible. Ils la trimballent partout, ils la lisent parfois, mais ils ne la croient pas vraiment. Et alors elle est devenue une idole. Comme le serpent d'airain, qui a servi à leur salut, mais qui est devenu une idole, il a fallu s'en débarrasser quelque temps après. Ils se sont créés un Dieu à leur image, en puisant un peu dans la Bible, un petit peu dans la chair, dans leur imagination, et ils se sont fait un Dieu à leur image. L'imagination négative au sujet de Dieu, c'est de l'idolâtrie, mes frères et sœurs. Et cela te fait du mal parce que c'est cela le mal. Le péché, le mal, c'est ne pas croire en Dieu. Le prophète l'a dit, le péché, c'est l'incrédulité. Et puis après, tout découle de là. Le bien, la vie, c'est de connaître qui est Dieu. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu, ce qu'il a fait, ce qu'il continue de faire, ses dispositions de cœur envers toi et envers les siens, et pour ce qui concerne le monde. Alors, ne doute plus. Choisis de ne plus douter. Souviens-toi de ton importance. Jésus, comme dit frère Osborne si bien, Jésus n'est pas mort pour rien du tout. Il n'est pas mort pour rien du tout. Pouvez-vous croire cela? Moi, je crois cela. Croyez-vous cela? Pensez-y. Rappelez-vous de votre importance. Souvenez-vous de votre importance. Le prix que Jésus a payé. Vous allez me dire, oui, mais il n'est pas mort que pour moi. Si, que pour toi. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a rien. Tu fais partie d'un corps. Louer Dieu, c'est être conscient de sa présence avec toi au moment présent, maintenant, 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 maintenant. Et cela, ça ouvre la porte à la gratitude, à la vraie, à celle qui est spirituelle. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci Seigneur Dieu d'avoir inspiré ce message pour ce soir, cette première réunion ici à la chapelle du Sanctuary. Veuille bénir chacun de mes frères et sœurs ici présents, mais aussi ceux qui sont devant leur ordinateur, qui sont en train d'écouter ce message sur le net. Veuille étendre ta main sur eux. Alors qu'ils sont là en train de m'écouter, je te demande de souffler de ton esprit sur chacun d'eux, de les réveiller et qu'ils se rendent compte de ta présence avec eux. Qu'ils se réveillent et que cela devienne une certitude. Oui, Jésus est avec moi. Je ne veux plus que sa parole et sa parole seule. Je ne veux plus de théologie, je ne veux plus de tradition. Je veux ta parole. Inspire-moi. Que ton esprit parle à mon esprit et que mon âme dise de ta part, je suis l'Éternel ton Dieu, je t'ai choisi, je ne te rejette point et je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante, je reviens bientôt, sois patient, continue à croire, relève la tête, ne doute pas, crois en toi, crois dans les autres, ouvre ton cœur et tes yeux. Sème et récolte dans le nom de Jésus. Amen.